Ça me dit you're live. Est-ce qu'on est live? Je pense que
C'est
oui.
qu'on est live, ben oui!
On est live. Deux petites
Ben
secondes.
oui,
Écoute,
on est
t'as peu.
live!
On va partir le petit jingle. OK, c'est tout ce qu'on a le droit, malheureusement, le soundboard dure pas plus que 5 secondes. Bonjour tout le monde et c'est bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux et particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 5 du live de la saison maudite numéro 13. Et j'ai en ma compagnie, trois joyeux lurons. On parle de Pierre. Bonjour Pierre.
Messieurs, bonsoir.
Et Steve Provo-Pocket.
Oui, bonsoir messieurs, bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Bonsoir Dave Roussel, bonsoir Frank Physio, bonsoir le chat.
Et nul autre que la grand-gueule Vincent Beaulac. Salut Vincent.
Elle est où les danses à claquettes? Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien?
Oui, ça va bien. Écoute, là, en remplacement de Simon ce soir, Simon a eu un empêchement, donc c'est moi qui ai pris sa place. J'espère que le monde n'est pas trop déçu. Donc, ce soir, on va parler de rejouabilité. Et en fait, la rejouabilité versus la variabilité, est-ce que c'est un mal nécessaire? Donc, je vous laisse commencer à penser à ça. Mais on va faire un petit tour de table pour l'actualité. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là, avant qu'on commence. C'est sûr, Vincent, tu as quelque chose à dire. Tu as toujours quelque chose à dire. Donc, on va commencer par Steve.
C'est bon. Ben, quelque chose à dire, je pense. Je dirais, tu sais, je pourrais parler d'un petit jeu dernièrement là, que j'ai découvert que j'avais emprunté ou volé, en tout cas, justement à Vincent, et puis il pensait pas que j'y avais prêté. C'est un classique jeu Innovation. Tu sais, là, j'ai même acheté une belle petite extension. Oui, je suis un gars qui jette une coupe d'extension d'envie. Ça pourrait avoir un lien justement avec notre sujet du jour, les extensions. Ça pourrait apporter quelque chose là-dedans. Innovation, tu sais, c'est que. Qu'est-ce que ça a de spécial, Vincent, techniquement? C'est un jeu tableau building, des icônes, puis tu fais plus de choses avec des icônes, mais où de la
Oui.
ligne?
Ben, il y a plein de cartes. Les cartes ont des effets. Puis, si t'aimes des cartes avec des effets,
Non, mais
tu risques
c'est
de pas aimer
nouveau,
ce
là.
jeu-là.
C'est
Ah oui,
nouveau, là.
C'est juste si vous aimez justement ou est-ce que votre partie plus à l'avance, plus que ça devient pété, c'est exactement le genre de jeu. T'sais, je me rends. T'sais, c'est tout, mes premières parties, c'est un jeu où est-ce qu'on essaye de, dans le fond, de faire des dominations à certains moments dans l'ère de la vie humaine, je dirais. Et les cartes deviennent de plus en plus fortes, mais on les découvre. Que les premières parties peuvent finir tôt. On ne découvre pas toutes les aires qui subséquent. Parce qu'il y a comme 10 aires qu'on va avoir de meilleures cartes. Mais tu sais, ça peut être aussi niaiseux. Les premières cartes, c'est bon, c'est pige une carte de l'aire 1 et joue-la immédiatement. Normalement, on devrait piger, c'est une action, et la jouer, c'est une action. Donc, on sauve une action en faisant ça. Versus si on se rend à l'aire 8, qui pourrait être pige 3 cartes de niveau 9. S'il y en a une rouge, joue-la. Les deux autres, c'est archi comme genre archivé ou quelque chose du genre, je ne me rappelle plus. Puis c'est qu'est-ce qui te permet de dominer puis qui donne beaucoup d'influence. Donc, plus la partie avance, les pouvoirs bien. Quand on découvre. C'est un jeu qu'en découvrant une carte, on remarque que c'est complètement pété puis que des combos qu'on découvre. C'est justement. D'une partie, on découvre, on voit juste la surface à chaque game, puis à un moment donné, on finit par découvrir toutes les couches, ce qui rend le jeu merveilleux selon moi.
Puis j'ajouterais à ça que c'est un tableau building, puis il y a plein d'effets. Les joueurs, ça, faire des effets, ils n'aimeront pas ce jeu-là parce que c'est trop sauté, c'est trop weird. Tu as des cartes que tu comprends pas pourquoi tu as ça, puis
Ah oui, mais
c'est bon,
t'as de
ben.
l'interaction. Des fois, il y a un petit peu de
C'est ça.
take-that. Il y en a un coup de
C'est
couteau
ça.
au bon moment.
Fait que
C'est ça.
Vincent, toi, t'avais-tu quelque chose à dire à part sur l'innovation?
Ouais, ben écoute. Demain, je vais avoir un enregistrement, pas live, avec Boris de la rue du jeu. Je sais pas si vous connaissez la
Oui.
rue du jeu.
Oui, oui.
C'est une chaîne YouTube, en fait, fort sympathique, très, très intéressante. Je vais mettre le lien là, dans le chat. Mais La Rue du Jeu, en fait, c'est une chaîne YouTube qui va présenter vraiment beaucoup, beaucoup de vidéos assez différentes, assez distinctes. Et le gars, ben, je m'en vais en France dans pas long. Puis, mes amis apprécient beaucoup ce YouTuber. Et ben, je me dis, ben, pourquoi pas, je pourrais aller gamer avec lui. Je me suis rendu compte qu'il est en Belgique. Puis là, je me dis, ben, Bordeaux, Belgique, c'est loin, c'est un moyen temps. Fait que je l'ai contacté. Puis on s'est dit, ben, pourquoi pas, écoute, on pourrait jaser, voir un peu qu'est-ce qui serait possible de faire. Puis, comme de fait, ben, on va essayer un nouveau segment, en fait, voir un peu with that. Tout ça. Donc, j'ai très, très hâte. Voilà. Donc, surveillez La Rue du Jeu. Puis vous allez probablement voir ma face. Hein, le vagabond ludique frappe encore.
Ouais. Pas question, Vincent, mais ton son, il coupe de temps en temps. Fais attention. Pierre, tu veux-tu nous dire quelque chose? Ou tu fais juste avoir l'air pensif?
J'aime ça avoir l'air pensif. Ça fait changement d'avoir l'air méchant par rapport à la semaine dernière, quand ceux qui l'ont remarqué l'ont dit en fait, se sont un peu moqués du cliché qui a été pris. Est-ce que j'ai quelque chose à annoncer? Bon, les actualités ludiques, peut-être. On a oublié la semaine dernière de parler du Spielwarenmesse 2024, la foire du jeu de Nuremberg. Et à bien des égards, la deuxième plus importante en Europe après Essen, puisque c'est là que les commerçants vont faire leur annonce annuelle de nouveaux jeux qui vont paraître durant l'année.
Oui, en fait, Nuremberg, c'est un salon professionnel, donc il y a pas le public n'est pas admis là, sur place, un peu comme le New York Toy Fair.
C'est en Allemagne?
Oui, c'est en Allemagne, c'est au nord de l'Allemagne, à Nuremberg. En fait, c'est l'équivalent de la Quiche pour le Québec qui prend place en mars et en septembre à Drummondville. Le salon Nuremberg, par contre, n'est pas un salon qui va annoncer tout, évidemment, parce qu'avec le monde dans lequel on évolue maintenant, les éditeurs sont très, très nombreux, les Kickstarter pullulent, et il y a bien des nouveautés qu'on ne verra pas annoncées à Nuremberg. Dont une qui m'a capté pas mal l'attention, évidemment, parce que c'est à cause de ses auteurs. C'est le duo d'auteurs qui a créé Hegemony, Lead Your Class to Victory. Ils avaient déjà un autre projet dans leur placard quand Hegemony est sorti l'année dernière. Pour ceux qui ne connaissent pas Hegemony, c'est un jeu qui a fait pas mal de tabac durant le printemps, l'été et surtout l'automne de 2023. Puisque c'est un jeu qui a pris le monde par surprise, un gros jeu asymétrique, très, très asymétrique, à vrai dire, parce que je n'aime pas vraiment la mode de galvanisation du mot asymétrie dans les jeux. Ouais. C'est rendu que le monde dit qu'un jeu est asymétrique, aussitôt qu'il y a des pouvoirs spéciaux pour les personnages qu'on va incarner.
Oui. C'est un excellent point, parce que les pouvoirs asymétriques puis un jeu asymétrique, c'est deux choses complètement différentes.
Ça mérite un fait, je pense.
Ouais.
C'est trop beau pour Tenawa. C'est juste trop beau pour Tenawa.
Alors...
Donc, la symétrie de Hegemony a fait beaucoup parler parce que c'est vraiment, je dirais, après Root, probablement le jeu qui a fait le plus parler pour son asymétrie. Maintenant, le nouveau jeu de ces auteurs-là va s'appeler World Order. Ce n'est pas un jeu asymétrique, mais c'est un jeu quand même qui va faire quelque chose, je pense, qui n'a pas été encore vraiment exploité dans les jeux de société. C'est-à-dire d'exploiter les relations diplomatiques internationales exactement comme les acteurs de diplomatie internationale vont le faire. C'est un jeu qui va nous mettre dans le rôle soit d'un diplomate de l'Europe, soit de la Chine, soit de la Russie, soit des États-Unis. Donc on peut voir que c'est très actuel et ça va probablement attirer beaucoup d'attention. Moi, ça, je dirais qu'il serait le le fait saillant qui m'a le plus capté ces derniers temps.
D'ailleurs, ça va être sur la même bannière que Hegemony, c'est-à-dire Hegemonic Project Games, qui est leur propre maison, évidemment. Moi, je vais vous parler vite d'un petit jeu. Donc, Randolph en a parlé donc déjà aujourd'hui. Donc, je voulais juste en reparler. C'est le petit jeu Littoral. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une petite copie pré-production qui m'a été gracieusement offerte par Randolph. Mais sérieusement, un beau projet québécois avec du matériel superbe. Donc, je vous conseille d'aller regarder ça. Donc, vous avez des jetons de bois qui sont vraiment assez chunky, sont vraiment le fun à manipuler. Donc, avec des belles teintes bleues et blanches, donc qui vont rappeler un peu là, la mer et tout. Donc, c'est un jeu très simple de push your luck, mais qui va très bien se jouer avec n'importe qui. Donc, petit salut à Brian Burgoyne, donc, qui est l'auteur de ce jeu, donc qui va sortir en juin prochain seulement. Donc, on parle de rejouabilité et de variabilité. Donc, est-ce que dans ce monde aujourd'hui où ce que on achète un jeu, on joue 2-3 games, puis après ça, on s'en débarrasse? Est-ce que la rejouabilité est quelque chose de si important que ça? Je vous pose la question pour commencer.
Il faudrait définir un peu le mot rejouabilité. Hein? C'est un petit peu, sinon, comme on disait, pouvoir variable, c'est galvanisé. Parce que techniquement, un jeu, si tu ne le déchèves pas, c'est rejouable à l'infini, selon la définition propre du mot. Fait que,
rejouabilité, en fait, c'est quand tu vas jouer plusieurs parties et que tu vas garder l'intérêt d'une partie à l'autre. Ça, c'est le terme officiel.
Pas plus une variabilité. Ouais, c'est ça, mais on dirait que variabilité, c'est un petit peu plus. Mais quoi que tu peux avoir de la variabilité,
tu peux avoir un jeu qui est rejouable, mais non variable.
Et en fait, il y a aussi une idée où est-ce qu'il faut garder en tête que la rejouabilité, il y en a une qui peut être plus objective et une autre qui est vraiment subjective, qui est considérant en fait les goûts, les intérêts personnels des joueurs. Dans la rejouabilité, il y a notamment en fait les différentes situations qui peuvent émerger, puis comment est-ce qu'elles peuvent se distinguer d'une partie à une autre. Ceci étant dit, maintenant, ces situations-là peuvent être sur le même continuum, puis varier un petit peu. Je pense à des jeux comme, puis c'est rien contre ces jeux-là, mais Wingspan, où est-ce qu'on a pas nécessairement une rejouabilité qui est grande. Ceci étant dit, en ayant différentes cartes, puis en enchaînant différents effets, on peut arriver à des combinaisons qu'on n'avait pas vues auparavant. Donc, peut-être, probablement qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont trouver que Wingspan est rejouable à cause du feeling qui est tout le temps renouvelé à cause de ça. Versus des jeux plus interactifs où est-ce qu'il va y avoir des situations qui vont être créées autour de la table par les joueurs même plutôt que par le jeu en tant que tel?
Effectivement, en fait, c'est un bon point. La rejouabilité peut être par les joueurs, ça peut être par le matériel, ça peut être par la quantité de matériel, en fait, comme tu dis, là, avec Wingspan, il y a tellement de cartes que tu n'auras jamais deux parties pareilles parce qu'il y en a beaucoup. Contrairement à un jeu comme Earth, sans vouloir rabaisser Earth, l'affaire, c'est que tu passes normalement à travers le paquet au complet dans une partie. Donc, peut-être pas une partie à deux, là, mais dans une partie à quatre, c'est sûr que tu vas passer à travers le paquet au complet. Terraforming Mars aussi a quand même beaucoup de cartes. Normalement, tu passes pas à travers le paquet. Donc, tu vas quand même te faire une partie différente à chaque fois. Terraforming Mars, en plus de ça, a des habiletés de départ et des corporations qui sont différentes. Donc, ils vont souvent avoir un feeling.
Là, on est dans une extension en plus. Donc, les extensions vont faire partie aussi un petit peu de la longévité, le mot que j'ai de la misère à dire, d'un jeu.
Longévité, Steve.
Oui, c'est ça.
Ben, puis je pense qu'aussi la rejouabilité passe a priori aussi par les règles qui sont instaurées et qui vont avoir une raison d'être, puis qu'elles vont ajouter à la profondeur du jeu. certains. Puis j'ai l'impression qu'avec le type de jeu plus chromé, où est-ce que tout est symétrique, tout est bien pensé pour structurer la partie qui a un début, qui a un milieu, qui a une fin, que les joueurs sachent où est-ce qu'ils doivent s'en aller dès le tour 1 ou 2. À ce moment-là, c'est certain que là, on va plus parler d'un sentiment qu'on veut réitérer versus des jeux comme, admettons, Pax Pamir, où est-ce que tu as vraiment une profondeur dans chacune des règles, mais c'est très, très, très... Ça peut paraître alambiqué là, jusqu'à un certain point. Puis d'ailleurs, Pierre, tu as joué dernièrement à Pax Pamir, puis tu n'as pas super bien performé apparemment. Je voulais juste dire ça de même, là, en passant. Mais Pierre, qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Tu veux-tu avoir des caméras puis des micros pour que je les accroche chez nous pour que tu puisses suivre ma vie avec ça?
C'est déjà fait.
OK. Qu'est-ce que je pense de ça?
Oui, de la rejouabilité, pas de Pax Pamir. Là. On se fout un peu de ta défaite à Pax Pamir. Là.
Ah. Je pense que c'est David Curzi. David Curzi qui est l'auteur de beaucoup de jeux, à vrai dire. J'appelle affectueusement le Vital Lacerda de l'Est de l'Europe. Même s'il n'habite pas dans l'Est de l'Europe, mais il est né en Hongrie. C'est un type qui fait des jeux d'une complexité aussi forte que ceux de Vital Lacerda, mais il travaille beaucoup plus avec des co-auteurs habituellement. Il n'a pas fait beaucoup de jeux seul. Mais c'est un capable, cet auteur-là. C'est un auteur que je respecte beaucoup parce qu'il a quand même un bagage assez académique, je dirais. On voit qu'il s'y connaît beaucoup dans l'étude du jeu. Il sait comment finalement fonctionnent les principes de création de jeu. Et il a, je pense que ça vient de lui, mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'en fait, il a dû s'inspirer des formations qu'il a reçues ou des lectures qu'il a faites en théorie de jeu. Il a su, en fait, cet auteur-là, exprimer de façon assez clairement qu'est-ce que c'est la rejouabilité. Et il a su la cibler en 5 paliers. Il y a 5 façons, en fait. Il y a 5 essences de rejouabilité dans un jeu. Et un jeu va donner rejouable dépendamment de comment on va niveler ces essences-là dans la création du jeu. On peut en faire plus pour 2 alors qu'on va laisser tomber les 3 autres. On peut essayer d'en faire pour les 5 de façon égale, mais disons que c'est toujours de jongler entre ces 5 essences-là pour essayer de rendre le jeu rejouable. Vous en avez nommé quelques-unes jusqu'à maintenant. La rejouabilité qu'on appelle de contenu, celle qui a un lien avec Wingspan, Terraform et Mars et Ark Nova, c'est une rejouabilité qui va compter beaucoup sur le matériel du jeu, le nombre de cartes, le plateau modulaire, le nombre de dés, il y a toutes sortes de choses. Les extensions font partie aussi de cette essence-là.
Est-ce que les objectifs individuels asymétriques vont faire partie de ça? Il y a certains jeux, en fait, c'est-tu Archipelago, si je me souviens bien, donc chaque joueur a sa condition de victoire personnelle. Donc,
non, ça, c'est plutôt...
Déclencheur de fin de partie.
Oui, excusez.
Ça rentre dans, justement, ce qu'on appelle l'essence de rejouabilité asymétrique, où on compte, finalement, sur le fait qu'on incarne quelque chose de différent de tous les autres joueurs, et ça va pousser les joueurs à vouloir rejouer parce qu'ils savent qu'ils pourraient avoir d'autres choses à faire dans une autre partie. Évidemment, ça peut être encore très bien jaugé, cette rejouabilité-là. On parlait tout à l'heure des jeux hyper asymétriques. C'est là qu'on va le voir le plus. La rejouabilité la plus à la mode, je dirais présentement, c'est la rejouabilité qu'on appelle stratégique. C'est celle que nos chers compères italiens que vous aimez tant, avec Luciani et Tacchini, font... À la pocheter, je dirais, c'est des rejouabilités stratégiques, à vrai dire, c'est lorsqu'on essaye de faire qu'un jeu puisse avoir énormément de chemin pour faire un tracé pour aller à la victoire. Et essayer d'en emprunter peut-être deux sur une demi-douzaine pour essayer de voir si ces deux chemins-là vont fonctionner.
C'est un peu la technique de la salade de points, en fait. Donc, souvent, c'est que tu donnes le choix. Tu as comme un buffet et la personne va décider de se gaver, de se bourrer de ce qu'elle veut, là, en fait, dans le buffet. Là. Donc,
ouais, souvent, dans ces jeux-là, c'est souvent on va miser sur la mise en place variable pour créer une certaine rejouabilité pour eux. Ils vont dire « Ah, le jeu est différent d'une partie à l'autre parce qu'on fait un setup de base différent. » Donc, ça va nous orienter des fois sur des parties avec un feeling différent. C'est souvent, les Italiens, je trouve qu'ils ont souvent ces trucs-là. Tu sais, comme dans Darwin Journey qu'on avait vu, c'est des objectifs à certaines rondes. Donc, on sait déjà où s'en est et à quel moment. À savoir si on juge ça vraiment de la rejouabilité ou...
Des fois, selon moi, c'est un peu de la poudre aux yeux, mais il y en a qui...
Ouais.
Dans certains cas, c'est vraiment très bien fait. Faut faire attention parce qu'il y en a que c'est vraiment une fausse salade de points, dans le sens que tu as une traque qui va te donner 75% de tes points, puis les quatre autres ensemble vont te donner 25%. Donc ça dépend toujours quand c'est bien fait ou moins bien fait. Et Pierre, je te laisse continuer.
Donc, ouais, c'est ça. Mais là, je veux juste qu'on fasse un petit recap parce que, donc là, on a parlé tout d'abord de la rejouabilité qui passe par, tu disais, la stratégie. Ensuite de ça, par
le matériel.
Le matériel. Ensuite de ça, le troisième, c'était quoi, Pierre? Excuse-moi.
Il y avait l'asymétrie.
L'asymétrie. Numéro 4.
Mais au cas, je dirais, Vincent, que c'est ta préférée. C'est la symétrie qu'on appelle, c'est la rejouabilité qu'on appelle tactique. C'est celle qui est la plus ancienne. Longtemps été la seule rejouabilité qu'on pensait pouvoir faire dans un jeu. C'est celle, finalement, qui va impliquer que, les joueurs autour de la table vont créer la rejouabilité parce que la façon qu'on va interagir avec les autres joueurs dans le jeu, va créer des dynamiques différentes à chaque partie, dépendamment des joueurs avec qui on joue.
Et on a Marie-Ève, en fait, dans le chat, justement, qui nous disait que les jeux abstraits ont peu de matériel et souvent beaucoup de rejouabilité.
Oui, parce que c'est souvent sur la rejouabilité
c'est
tactique.
C'est ça, c'est la tactique.
Exact.
Donc, c'est vraiment la rejouabilité préférée, je dirais, l'approche préférée pour les jeux abstraits. Et la dernière, ben, c'est celle qui, je dirais, revient en force. Elle était extrêmement populaire il y a 40, 50 ans, à cause d'un certain Donjon et Dragon. Ça s'appelle la rejouabilité scénaristique. Voilà. La rejouabilité scénaristique, c'est la rejouabilité, comme vous le devinez, c'est la rejouabilité qui va se concentrer sur des scénarios. Donc, il va miser sur le fait que quand vous jouez au jeu, une histoire à traverser, mais il ne faudra pas qu'il y en ait seulement une dans le jeu, sinon ça tue le jeu.
C'est du storytelling, en fait. Là. C'est, donc, ouais. C'est ce qui va créer la rejouabilité.
Mais justement, par rapport à ça, il y a quoi qui est intéressant? Tu sais, le jeu de société, en fait, c'est pas de... Il y a cette rejouabilité-là thématique qui parle la narration, oui, mais une rejouabilité aussi thématique qui veut se faire par le contexte, par l'univers, l'immersion que le jeu offre. Et je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Puis pour vous donner un exemple, on va parler de Gloomhaven, où est-ce qu'on a vraiment une progression très linéaire, structurée autour d'une narration. Le contre-exemple à ça, ça pourrait être un jeu comme, par exemple, Mage Knight ou Magic Realm, où est-ce qu'on a un monde de possibilités qui s'ouvre devant nous, et ce sont les joueurs qui vont jouer, qui vont, en fait, se raconter une histoire.
C'est le modèle du bac à sable, un peu, en fait, là.
Oui, exactement. Mais
le modèle du bac à sable, c'est la beauté de la chose. C'est que tu peux décider de faire toi-même... ta stratégie, dire OK, ben cette partie-là, je vais jouer un voleur, cette partie-là, je vais jouer un paladin, je vais jouer quelqu'un de super bon et je vais juste aider mon prochain. Puis, c'est la beauté de la chose. Mais ça prend les joueurs pour, par exemple.
Oui, mais l'affaire, c'est que, en fait, il peut avoir ce style-là, bac à sable, mais aussi l'histoire qui se retire, en fait, de toute cette expérience-là. Et je pense que, en fait, cette situation-là, puis là, je pourrais en nommer, il y en a plusieurs qui me viennent en tête, là. C'est pas nécessairement tant des jeux bac à sable. Je pense, par exemple, à Respublica Romana, qui n'est pas un bac à sable, mais qui offre tellement de possibilités, en fait, aux joueurs qu'on va y jouer de façon thématique. Mais il n'y a pas de script, il n'y a pas de narration. Ou Junta, par exemple, qu'on parlait aujourd'hui, là, Pierre, crois-tu que Junta peut rentrer dans cette rejouabilité-là thématique?
De la rejouabilité scénaristique.
Oui, scénaristique, excuse-moi.
Non, je mettrais plus Junta dans une rejouabilité tactique parce que c'est très, très dépendant des joueurs. Le scénario est toujours le même. C'est un scénario de République de Banane où un joueur incarne un président et il doit essayer de gagner la confiance des autres joueurs autour de la table pour se faire aider dans ses projets, mais les autres joueurs vont jamais être complètement unanimes parce qu'il y en a toujours qui vont vouloir avoir la place du président. Donc, ça devient très axé sur les tractations et le bluff, et ça, c'est très, très... on rentre beaucoup dans la rejouabilité tactique avec ça.
Est-ce qu'il n'y aurait pas une sixième catégorie, là, je pose la question, une rejouabilité, mais quand tu joues avec différentes personnes, tu peux rejouer exactement la même partie, refaire les mêmes actions, mais dépendamment de contre qui tu vas jouer, ça va changer complètement ton expérience de jeu, puis ça va faire que tu vas garder l'intérêt, en fait, mais de jouer avec différents groupes. Tandis que des fois, tu as des jeux que si tu joues toujours avec le même groupe, ça va toujours donner à peu près la même partie. Mais tu changes de groupe, ça va donner quelque chose de différent.
Oui, ça reste encore dans la rejouabilité tactique.
Ça reste dans la tactique?
Ouais.
Ben oui, parce que la tactique, en fait, c'est vraiment... On pourrait dire que c'est on pourrait l'appeler la rejouabilité par les joueurs. Ah, parce que c'est vraiment ça. On est vraiment dans le méta-jeu avec la rejouabilité tactique. On l'appelle tactique parce que ça fait référence en fait aux réactions que ça va provoquer. Les joueurs vont faire leurs actions dans le jeu. Donc, les réactions vont faire en sorte que la rejouabilité va être provoquée à cause que les réactions ne sont pas toujours les mêmes à chaque fois. Les meilleurs exemples de jeux comme ça, c'est les jeux de bluff pur. Parce que c'est vraiment
bluff et négociation aussi. Les jeux de négociation vont vraiment beaucoup dépendre des joueurs. Et un jeu de négociation peut tomber complètement à plat si les joueurs ne veulent pas négocier.
Oui, je voulais, moi, en fait, c'est ça, Steve, tu voulais en fait rebondir
ouais,
sur
mais
la question de Danny.
C'est ça. C'est l'aspect, la chance pure, est-ce que ça fait partie du matériel? T'sais? Si on peut y aller avec un simple, c'est les châteaux de Bourgogne, en fonction des dés ou la distribution des tuiles ou à quel moment qu'ils arrivent, est-ce que ça va dans le matériel vu que c'est purement de la chance à quel moment qu'il va ou comment qu'on va générer ce facteur-là? Parce qu'on dirait que c'est comme un autre, tu sais, le jeu il devient un joueur en lui-même, donc il réagit d'une manière et nous, on T'sais, de manière tactique, on s'ajuste à ce que le jeu nous offre?
Ben, je pense pas que ces stratégies-là sont faites en silo. Je pense que les rejouabilités ne sont pas faites en silo. Je pense que dans un jeu, on peut se retrouver avec plusieurs types de rejouabilités. Je vais penser d'ailleurs à, je reprends l'exemple de Gloomhaven, qui a une rejouabilité scénaristique, mais aussi une rejouabilité au niveau de la symétrie et une rejouabilité au niveau tactique, parce que chaque fois qu'on est présenté avec avec une situation, ça fait en sorte qu'on est capable de réagir par rapport à ça. Puis aussi, une rejouabilité au niveau du matériel, parce qu'on en découvre, parce que le matériel fait en sorte qu'on est capable d'avoir cette rejouabilité-là. Juste mélanger les cartes, en tirer une, puis que ça a un effet quelconque. À ce moment-là, c'est matériel, mais aussi c'est tactique. Ça peut être plusieurs éléments là, en même temps. Donc, je pense pas que c'est disséqué au couteau. Je pense que c'est vraiment une variété là, qu'on peut retrouver dans cette rejouabilité-là.
sûr que
Ouais, ben comme je
moi,
disais tantôt.
si je regarde en fait les éditeurs aujourd'hui, ils vont se concentrer beaucoup sur la rejouabilité matérielle. On pense encore aux Kickstarter qui ont 553 figurines, puis 72 scénarios, puis des campagnes à n'en plus finir. Je pense que le reste des rejouabilités est quand même plus important selon moi que le matériel, là.
Alors, il faut faire attention, mais les figurines en tant que telles ne sont pas un facteur de rejouabilité, ça c'est un facteur de chrome. Alors, quand on parle de rejouabilité matérielle, c'est vraiment, parce que comme on l'a évoqué, en fait, le hasard en fait partie. Donc, si on a des éléments qui font de l'aléatoire comme des dés ou des cartes,
Oui, mais je
et
pense
que
à
ça
un
peut.
jeu où ce que tu vas en fait commencer avec seulement certains ennemis. Moi, je pensais à Deep Madness que j'avais. Donc, tu choisissais ou tu tirais au hasard 6 ou 7 ennemis différents que tu allais jouer dans la partie. Fait que le fait d'avoir 40, 50 sortes d'ennemis différents, ben, tes parties allaient changer d'une fois à l'autre.
Oui, bien, là-dessus, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, Antoine, je pense qu'il y a comme un. Mais je pense aussi que ça fait partie de l'ère du temps dans cette espèce de. Tu parles de production, mais je pense aussi que c'est comme un reflet de notre société dans cette ère de consommation-là, puis du matériel, qu'on accorde beaucoup d'importance à le plus de matériel possible. C'est comme s'il y a un espoir que par le biais du matériel qu'on ajoute dans la boîte, il va avoir nécessairement plus de rejouabilité. Mais pour reprendre ton exemple de Deep Madness, est-ce que véritablement avoir des ennemis différents, en début de chaque partie, grâce à l'inondation du matériel que tu peux avoir, permet cette rejouabilité-là en tant que telle. Peut-être, mais peut-être pas non plus, parce qu'au final, on se retrouve devant des dilemmes qui sont similaires ou qui sont répétitifs ou qui, malheureusement,
La variété au
sont
niveau des
dysfonctionnels.
ennemis, la variété était quand même importante au niveau des ennemis. Donc, oui, le feeling était différent d'une partie à l'autre, même si tu rejouais le même scénario. Donc, c'est quelque chose qui était quand même intéressant. Ben c'est ça reste du matériel. Écoutez, il est déjà, malheureusement, il est déjà 9h32. Je ne veux pas faire mon plate, mais je vais faire comme Simon. Puis on va mettre fin à ce beau petit épisode et en espérant que Simon soit là la semaine prochaine parce que c'est pas moi qui fais un aussi bon job que lui, ça c'est sûr. Fait que
Un
je
petit
vous dis
dernier mot, tout le monde? Un petit dernier mot. Ah oui, un petit dernier. Il me fait faire ça.
un
Il me
petit
fait
dernier mot
faire
pour la
ça.
fin, Steve.
Non, j'en ai pas cette semaine. Je me ferai pas rire de moi comme la dernière fois.
Pas de mot de la fin, Vincent, un petit mot de
Non.
la fin.
Oui, puis en fait, c'est des mots que Steve a déjà utilisés. Parce que j'ai une petite ambiguïté, mais en même temps, je trouve que c'est intéressant. La rejouabilité peut se retrouver aussi dans le nombre de jeux qu'on a. Plus on a des jeux différents, plus on a des jeux dans notre bibliothèque, ben, la rejouabilité, c'est de ressortir ce jeu-là une fois de temps à autre plutôt que de le clencher puis faire 50 parties. Faisons 50 parties sur 10 ans. Ah, le jeu est rejouable quand même. Je trouve ça intéressant
Parce
comme
que
proposition.
25 parties back-à-back, tu t'en fais une écœurant en titre, puis il prend le bord après.
Des fois, tu découvres, mais tu résous le jeu un peu, des fois.
Et Pierre, je te laisse le mot de la fin, comme à l'habitude.
C'est fini.
C'est fini.
Et voilà.
Merci tout le monde. Bonne soirée.
Bon
Ciao.
jouage.